Une première lecture dans Genèse 14, 18, 21. Melchisédek, roi de Salem. Alors Salem, probablement, c'était l'ancien nom de Jérusalem. Donc Melchisédek, roi de Jérusalem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Que le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abraham, « Rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. » Un deuxième texte dans Matthieu 6, 19, 24. C'est un chapitre concernant les biens matériels. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde tu te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Amen.
Over to you, my friend. Voilà.
Bonjour. Apparemment, les fauteuils au fond sont plus confortables. Je suis ici aujourd'hui à l'invitation de vous. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Pour parler d'un sujet qui, pour certaines personnes, est un peu gênant, même troublant. Money, 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 l'argent. Alors, je trouve très intéressant de penser que, sauf erreur, par exemple, quand Clinton, l'ancien président des États-Unis, a pris sa retraite après la fin de son mandat, il a pu être nommé comme orateur pour visiter différents villes, différentes conférences pour parler des sujets importants de la vie. Et il est payé 100 000 $ pour une conférence, 300 000 $ pour une autre, et les gens payent 1 000 $ pour venir l'écouter. Alors, si vous aviez tous payé 1 000 $ pour venir ici aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de parler d'argent. Mais la chose qui me travaille un peu est que parfois, nous acceptons comme normal qu'un joueur de tennis puisse gagner 5, 6, 7 millions par an. Mais si pour faire fonctionner l'association qu'on appelle Église comme structure, quelqu'un parle d'argent, on dit « Ah, zut, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» L'Église est toujours en train de parler d'argent. Nous payons nos policiers, nous payons nos instituteurs, nous payons toutes les personnes qui assurent une vie plus ou moins normale dans notre société. Il y a même des gens qui vont coordonner les référendums et les votations d'aujourd'hui. J'espère que vous avez fait votre devoir de voter. Mais c'est normal que toutes ces fonctions, pour toutes ces fonctions, il y a un budget. Et on accepte de payer. Bon, on accepte parfois un peu contre notre gré, parce que je paye mes impôts, mais ce n'est pas forcément toujours avec joie. Non, c'est avec joie que je peux dire « Merci Seigneur que j'ai encore la possibilité de payer d'impôts. » Parce que si je n'avais pas la possibilité, je n'aurais pas d'impôts. Mais si je n'ai pas d'impôts, c'est parce que je ne gagne pas assez. Alors le fait d'avoir le privilège de payer des impôts, c'est déjà aussi une grâce de Dieu. Mais quelle est la différence entre les structures que nous acceptons comme normales dans notre société et faire fonctionner la structure qu'on appelle l'Église? Oh, ils sont toujours en train de demander d'argent. J'espère que ce n'est pas vrai qu'ils sont toujours en train de demander d'argent. Mais peut-être que si ceux qui prétendent faire partie de cette structure assumaient leurs responsabilités et leurs privilèges, on n'aurait pas besoin de demander. Il y aurait le nécessaire pour faire ce que Dieu a prévu pour cette institution qu'on appelle l'Église. Pour moi, la question n'est pas d'abord est-ce que tu fais quelque chose, tu fais un geste. Des personnes ont fait des gestes ce matin. C'est une habitude, c'est une obligation. Qu'est-ce que c'est? Et pour moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble aborder le thème argent et seigneurie. Autrement dit, qui ou quoi est seigneur ou maître de ma vie? On pourrait passer des heures et des heures à faire des études sur les versets qui parlent de l'argent dans la Bible. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus lui-même a parlé davantage au sujet de l'argent qu'au sujet du salut? Bizarre, n'est-ce pas? Non. Parce que Jésus parlait de seigneurie. Qui est maître? Qui a le rôle central dans ton existence? En qui ou en quoi est-ce que tu places ta confiance? Et pour la majorité des êtres humains, l'argent, c'est la source de notre confiance. C'est la base. L'argent me permet de prendre une année sabbatique pour visiter le monde. L'argent me permet de construire une maison, l'argent me permet d'aller manger dans un restaurant, l'argent me permet de m'acheter des habits, l'argent me permet, et c'est moi qui maîtrise et contrôle tout ça. Alors, on tourne autour de l'argent. Combien est-ce que tu gagnes? Ah non, en Suisse, on ne parle pas de ça. C'est tabou. Il y a des années de ça, il y avait une annonce publicitaire à l'aéroport de Genève. Money shouts, wealth whispers. Les sous, ils crient, je suis riche. Mais ceux qui sont vraiment riches, ils chuchotent comme ça, ils n'en parlent pas. Et ça, c'est notre tradition suisse, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas vous faire une étude biblique de tous les versets. Vous n'avez pas 3 mois avec moi. Je ne vais pas m'inoltrer sur la question de l'argent dans ce sens, mais j'aimerais vous inviter à faire un petit voyage, un petit déplacement à travers les siècles et à travers les étapes de ta vie. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec une petite histoire un peu banale. Apparemment, dans cette ferme, il y avait des animaux. Et parmi les animaux, il y avait une poule et un cochon. Et les deux étaient amis. Et un jour, ils discutaient ensemble, ils ont dit, « Ah, mais on est fatigué d'être ici dans le même environnement tout le temps. On aimerait faire quelque chose de spécial et différent. On va découvrir la ville. » Alors, ils ont fixé une date, ils se sont donné rendez-vous et tôt le matin, ils se sont mis en marche pour aller dans la ville, pour découvrir la ville. Le chemin était long et quand ils sont arrivés à la banlieue de la ville, ils étaient un peu fatigués. Et ils ont vu un panneau, restaurant, petit déjeuner. Spécialité, œuf au jambon. Alors la poule a dit, « Ah, chouette, on peut manger. Tu viens, on va manger ici. » Et le cochon a regardé, il a dit, « Non, s'il te plaît, ça me dérange d'aller dans ce restaurant. » Il dit, « Mais pourquoi ?» Il dit, « Oui, œuf et jambon. Écoute, pour toi c'est facile. » Toi, la poule, un œuf, c'est une offrande. Pour moi, le jambon, c'est le sacrifice de ma vie, c'est un engagement de ma vie. Gardez ça dans votre pensée. Œuf ou jambon? Qu'est-ce que je donne à Dieu? Dieu s'intéresse pas à l'œuf, même s'il a du plaisir avec nos offrandes. Mais Dieu, c'est le Dieu de sacrifice, le Dieu d'engagement. Et c'est pour ça que nous avons ensemble lu ces versets dans Genèse 14 sur Melchizedek. Melchizedek, inconnu, roi de Salem. Melchizedek, ça signifie roi de justice. Mais Salem, c'est shalom, c'est la paix intérieure. C'est, comme on a entendu, c'était l'ancien nom de Jérusalem. Mais Melchizedek était le roi de justice et le roi de paix. Et c'est l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, qui reprend ce thème et qui développe ce thème et qui fait de Melchizedek un avant-goût, une image de la venue de Jésus, roi de justice, roi de paix. Jésus, selon le texte en Hébreux chapitre 7, est celui qui a donné sa vie comme sacrificateur, comme grand prêtre. Et Melchizedek était symbolique de lui parce que Melchizedek n'était pas juif. Il n'était pas de la tribu des Lévites. Il n'était pas dans une fonction spéciale selon notre connaissance de lui. On ne sait pas grand-chose sur lui, franchement. Mais il y a une chose. Abraham, pardon, c'était encore Abraham, ce n'était pas encore Abraham, mais Abraham, quand il a, avec ses amis, les autres rois, il a gagné la victoire et il a fait quoi? Il a donné la dîme. Non, il n'a pas donné la dîme. Il a porté la dîme. Je vais faire une différence sur donner et porter. Parce que donner, c'est quelque chose que j'ai. Et étant donné que je l'ai, il est à moi. Et alors, j'ai le privilège ou le droit de le porter et de le donner à toi, ou à toi, ou à toi, ou à n'importe qui, n'est-ce pas? Par définition, si j'ai quelque chose, si c'est à moi de faire ce que je veux avec. Et j'aimerais souligner cet aspect, que dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle à son peuple de la dîme, il ne dit pas « donner la dîme », il dit « porter la dîme ». Parce que la dîme, ce n'était pas quelque chose que l'homme donne à Dieu. La dîme, c'était permettre à Dieu de reprendre une partie des choses qui lui appartiennent. Stop! On vit au 21e siècle. C'est moi celui qui contrôle ma vie. C'est moi qui assure mes richesses. C'est moi qui fais les études pour les diplômes, pour faire estrada, comme on dit en bon français, n'est-ce pas, progresser. Non. La dîme, à la base, est une proclamation. Dieu est la source de vie. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu tient l'univers dans sa main. Tout dépend de lui. Tout lui appartient. Lui, il est digne de tout recevoir. Et si moi j'ai quelque chose, c'est grâce à lui. Et alors, je vous invite. J'ai toutes les références ici, je ne vais même pas les mentionner maintenant. Vous pouvez travailler, vous pouvez les chercher vous-même. Mais il y a beaucoup de versets qui disent « C'est Dieu qui me donne la capacité de réussir. C'est Dieu qui donne la capacité de gagner ma vie. Est-ce que je le crois? Aucun amen ou alléluia, mais j'entends personne ronfler, alors c'est bon, je continue. Est-ce que je crois? Est-ce que j'accepte que malgré tous mes efforts, malgré toute la connaissance humaine, malgré tous les avancements de la science, de la philosophie, de la psychologie, de la médecine et tout ça, est-ce que j'accepte que je ne peux pas dire si dans 5 minutes je vais être encore en vie ou pas? Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut garantir ça? Non. On est dans la main du Seigneur, par sa grâce. Je suis 100% d'accord sur le fait que chacun de nous, comme être humain, nous avons une responsabilité de faire notre mieux pour assurer des choix qui respectent la nature, mais réalisons-nous, nous, on ne peut pas sauver la planète. Si la Terre changeait un peu d'angle, au lieu de tourner à 22,5 degrés, j'oublie combien c'est, d'angle, elle tournait comme ça au lieu de comme ça, il n'y aurait pas été et hiver. Si la Terre arrêtait de tourner quelque temps, une partie allait mourir de froid et l'autre allait brûler avec le soleil. Si c'est vrai que le soleil est une étoile et qu'il y a des étoiles qui implosent, il y a l'implosion des étoiles apparemment, c'est possible, et même des explosions. Qu'est-ce qui se passerait si demain je me lève et le soleil n'est plus là? Qu'est-ce que deviendrait cette Terre? Alors, on peut dire, ah, mais c'est l'évolution, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Mais le message de la Bible n'est pas d'abord pour dire, essayez d'organiser votre vie de chaque jour pour faire des petites choses comme ça. À la base, le message de la Bible est Dieu est. Dieu est. Il est, il existe. Et il est créateur. Et il est contrôleur. Et il tient toutes choses dans sa main. Est-ce que je le crois? Beaucoup ne le croient pas aujourd'hui, bien sûr. On a mis Dieu à l'écart, et on a fait de l'être humain le centre de l'univers. Sans commentaire. Mais alors, revenons un peu à la dîme. La dîme était un moyen que Dieu a utilisé pour communiquer à son peuple. Tout dépend de moi. Tout m'appartient. Vous pouvez le lire en Deutéronome 18, si vous voulez. Mais il y a d'autres versets qui parlent la même chose. Nous sommes tous dans la main de Dieu. Quand tu te lèves le matin et tu regardes dans le miroir, sans être trop choqué, est-ce que tu peux dire, le visage que je vois dans ce miroir, c'est un être humain créé à l'image de Dieu avec un plan éternel. C'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, chacun de nous. Alors, réalisons notre grandeur en lui et notre limite sans lui. Et là, nous commençons à comprendre quel était le but de la dîme. Le but de la dîme n'était pas parce que Dieu a besoin de quelques offrandes, le premier-né des agneaux ou le premier-né d'une vache ou je ne sais pas quoi. Le but était une proclamation en acte et en parole. Tout appartient. Je compte sur toi, je dépends de toi. Et alors, dans le livre de Lévitique, le livre de Nombre, le livre de Deutéronomie, il y a des centaines de versets qui parlent de la dîme. Et il y a la dîme des fruits de la terre, il y a la dîme des fruits des animaux, il y a la dîme de l'argent, il y a la dîme. Et la dîme, à propos, c'est très simple, 10%. Et des gens disent, ah, mais ça c'était pour s'occuper des Lévites, parce que les Lévites, c'était une de 12, à vrai dire 13 tribus, si on veut, parce qu'il y avait deux demi-tribus, les enfants de Joseph. Mais c'était parce qu'eux, ils étaient les Lévites et les prêtres, ils ne travaillaient pas, ils devaient être nourris par la dîme. C'était un aspect pratique. Mais n'oublions pas que les Lévites aussi devaient apporter la dîme de ce que les autres avaient donné à Dieu et qu'eux devaient gérer. ils n'étaient pas exonérés de la dîme. Alors, si toi, tu veux devenir pasteur, comme ça, tu n'as pas besoin de payer ta dîme, tu te trompes. En tout cas, il y a d'autres raisons pour le faire et ou pas le faire. Mais la réalité est que pour tous, la dîme était présentée comme une base de communication, une déclaration. Dieu m'a créé, je suis redevable vers lui, c'est lui qui me donne toutes les possibilités nécessaires pour vivre, pour sa gloire. Je lui appartiens. Et ce dîme que j'apporte, c'est un petit symbole de ma soumission à sa seigneurie dans ma vie, dans ma pensée, dans mes choix, dans mes décisions. Mais il n'y avait pas seulement la dîme. Il y avait la dîme de tout, d'une façon régulière. Il y avait des dîmes spécialisées chaque 3 ans pour faire un pas vers les orphelins, les veuves, les étrangers, les serviteurs. C'était pour dire, tu m'as créé, tu m'as donné la capacité de faire quelque chose. Tu as créé des autres là qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi. Et étant donné que je t'aime, je t'adore, je t'apporte cette dîme afin que ça puisse être une bénédiction pour ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi. Et alors là, on commence à mélanger un peu dîme et offrande. Alors, l'offrande était facultative. Et à propos, vous dites, ah, mais tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. N'oublions pas que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23, sauf erreur, et dans l'évangile de Luc, il y a la même chose qui est redite, Jésus parle au sujet de la dîme et il dit, vous, les pharisiens, vous êtes très consciencieux, vous apportez la dîme de tout, le fruit des champs, le fruit des animaux, même la dîme des épices. Bon, moi je n'ai jamais donné la dîme de romarin ou de persil, je ne sais pas, mais tous ces détails, c'était un grand détail. Et il dit, mais honte à vous, parce que où est votre sacrifice d'amour, de justice, de service vers les autres? Où est votre témoignage d'être porteur de la nature de Dieu, votre Créateur? Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, vous faites bien de porter la dîme, mais il y a quelque chose qui est plus important que ça. Et nous devons souligner cet aspect, que si je porte la dîme par compulsion, par obligation, et pas par conviction et pas par amour, je deviens hypocrite. Ça ne sert pas grand-chose. Ça ne sert pas grand-chose. Parce que d'un côté, je porte la dîme, et de l'autre côté, je ne fais pas les choses qui honorent Dieu et qui sont une manifestation de son caractère parce que je lui appartiens et lui, il habite en moi. Alors, les deux doivent être mélangés. Et vous vous rappelez, si vous lisez les évangiles, que plusieurs fois, Jésus a pris position d'une façon assez stricte et sévère contre ceux qui était très pieux, très bien. « Seigneur, je te remercie que je prie 3 fois par jour. Je te remercie que j'apporte ma dîme sans oublier le plus moindre détail. Merci que je ne suis pas comme lui. » Et l'autre qui dit, « Seigneur, manifeste ta miséricorde envers moi, pauvre pécheur. » Et ce n'est pas celui qui apporte la dîme qui est justifié, c'est l'autre, n'est-ce pas? Alors, attention. Si tu penses que ça vaudrait la peine de porter la dîme pour obtenir quelque chose, tu te trompes. Ça ne change rien au fait que Dieu est absolu, Dieu est tout-puissant, et ce n'est pas mes miettes qui vont changer, qui vont enrichir Dieu. Ce n'est pas pour obtenir, c'est pour dire merci Seigneur de toutes les choses que je reçois de ta main. Merci Seigneur pour l'ampleur de ton amour manifesté dans ma vie. Alors, et les offrandes? Comme j'ai dit, les offrandes, c'est facultatif. Mais, je ne sais pas si ça se fait encore, mais quand j'étais un peu plus jeune, on avait l'habitude de porter des fleurs à quelqu'un qu'on aimait bien. Parfois, il y avait un problème. Moi, j'ai pensé à porter des fleurs à ma fiancée. Je parle maintenant des années 50, hein? Mais pas quand j'avais 50 ans, des années 1950. Mais parfois, je ne pensais pas à faire un petit geste comme ça. Sauf si j'avais oublié de faire quelque chose ou si j'avais fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Alors, c'était les péchés d'omission et les péchés de commission. Et alors, je portais des fleurs. Et pour finir, j'ai dû arrêter de porter des fleurs. Parce que chaque fois que j'arrivais avec des fleurs, ma fiancée me regardait et disait, « Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire ?» Ou « Qu'est-ce qu'il y a que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire ?» Alors, l'offrande, c'est... Ça doit être une expression très simple de gratitude, de compassion, d'intérêt. Quand je vois les besoins de l'autre, quand je vois des possibilités d'être porteur de son amour. Et l'offrande est facultative. Et alors, on a lu là, dans le chapitre 29 du premier livre de Chroniques, que quand ils étaient confrontés avec l'idée de donner le feu vert à Salomon pour construire le temple du Seigneur, David avait donné beaucoup de matériel, beaucoup d'argent et beaucoup de choses, et le peuple a été motivé de participer aussi. Mais ça, c'était une offrande. Ça n'avait rien à faire avec la dîme. C'était un geste supplémentaire à cause d'une possibilité de faire quelque chose spécial, privilégié pour le Seigneur. Alors, c'était le cas du peuple d'Israël. Plus tôt, dans le livre de Samuel, nous lisons que David avait à cœur de construire un autel pour honorer et pour adorer le Seigneur. Et il veut acheter un terrain pour le faire. Vous vous rappelez de l'histoire, n'est-ce pas? Et alors, il va vers le propriétaire et il dit, « J'aimerais acheter cette parcelle. » Et le propriétaire a dit, « Mais pourquoi? Pour construire un hôtel pour le Seigneur. » Et le propriétaire dit, « Non, je vais le donner. Tu n'as pas besoin de payer. » Et David, le roi, qui selon la culture et la tradition dans laquelle il vivait, il avait le droit de prendre toutes ces choses dans ce sens. Personne ne pouvait lui refuser. Mais il a dit stop. je ne veux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. C'est un sacrifice. Je fais quelque chose pour lui. Et il paye. Alors, et nous? L'Ancien Testament et le Nouveau proclament ensemble que ce soit quand nous apportons la dîme ou quand nous faisons une offrande, ça doit être avec joie dans notre cœur. Il y avait des fêtes. Ils se réjouissaient pendant des jours. Il y avait la fête des vendanges. Il y avait la fête des moissons. Ils apportaient des offrandes à Dieu. Pas seulement la dîme, mais ils apportaient et donnaient des offrandes. Et il y avait la gratitude dans leur cœur parce qu'ils étaient reconnaissants de ce que Dieu avait fait pour eux. Alors, pardon, je dois m'arrêter. On n'est pas en Afrique. Mais permettez-moi d'ajouter encore deux petites images assez personnelles. D'abord, je vous encourage à lire Malachie chapitre 3 et vous poser la question, est-ce que tu as quelque chose à me dire à moi, Seigneur, à travers chapitre 3 de Malachie? Et si tu as quelque chose à me dire, quelle est ma réponse? Mais les deux petites images, une est, et c'est très personnel, excusez-moi, mais c'est la réalité, une est, quand moi j'ai rencontré le Seigneur, ou quand, je dirais plutôt quand le Seigneur m'a pris, c'était le 9 février 1956. Et moi je n'avais pas de Bible, je n'avais aucun arrière-plan chrétien. Alors, maintenant, je découvre Jésus comme sauveur. Je suis passé de la mort à la vie, je suis une nouvelle créature en lui, je veux étudier sa parole pour comprendre qu'est-ce qu'il attend de moi. Et je commençais à lire, c'était un mercredi, la conversion, le jeudi j'ai acheté ma première Bible, et je commençais à lire de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai lu environ 2-3 heures par jour, je lisais l'ensemble de la Bible au moins une fois par mois, pour apprendre. Ça ne faisait pas forcément de moi un bon chrétien. À propos, il n'y a pas de bon ou de mauvais chrétien. Il y a des êtres humains qui sont sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ou ceux qui sont des pécheurs, qui doivent encore être sauvés par la grâce, mais on est tous des pécheurs. Et j'ai commencé à lire, alors j'ai commencé à donner la dîme. J'ai lu dans l'Ancien Testament, et alors j'ai versé la dîme. Maintenant, j'ai dit, bien, j'ai fait mon devoir. Et le 24 mars de même année, 56, c'était un samedi, et il y avait une soirée missionnaire. Il y avait un vieux, un peu spécial, Reg Ford, ça c'était en Afrique du Sud à propos, qui est venu parler sur la mission évangélique contre la lèpre. C'est le symbole que je porte ici. Et il a parlé du fait qu'à l'époque, dans les années 50, il venait de découvrir l'efficacité d'Absone pour freiner la multiplication des bacilles de lèpre. C'était un pas en avant formidable. Et c'était très bon marché. Et je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit, mais il a dit, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec l'équivalent de 1 franc à l'époque, vous pouvez payer le traitement pour soigner un lépreux pendant une année. D'Absone, hein, c'est bactériostatique, ça freine la multiplication des bacilles. C'est pas très spectaculaire, mais ça, c'était mieux que rien. Et alors, je dis, ah oui. Et il a dit, à propos, vous qui êtes chrétien ici, il y a peut-être quelqu'un qui fume. Alors, c'est entre toi et le Seigneur. Mais si c'est vrai que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et c'est vrai que le tabac nuit à notre santé, si vous pouvez faire quelque chose comme temple de Dieu qui nuit à votre santé, pourquoi pas au moins réfléchir et voir si vous pouvez faire le même geste pour apporter les médicaments pour soigner quelqu'un qui souffre de la lèpre. Et alors, je suis rentré, réfléchi, et le Seigneur m'a mis à cœur, oui, arrête de fumer. Et alors, j'ai fumé 20 cigarettes par jour. J'ai pris le paquet, je l'ai mis dans le feu, c'était fini. Et j'ai commencé à donner le prix des cigarettes pour acheter des médicaments. Et chaque jour, avec l'argent que j'avais dépensé avant pour le paquet de cigarettes, maintenant je pouvais apporter des comprimés pour traiter quelqu'un qui souffrait de cette maladie. C'était un choix. Et parfois, l'offrande signifie choisir. Je ne peux pas seulement augmenter, ajouter des choses, donner ici, donner là, ajouter à faire des choses. Parfois, je dois arrêter pour pouvoir commencer. Et tout ça, ça dépend de qu'est-ce que signifie Dieu pour moi. La deuxième petite image, c'est notre fils. Certains ici le connaissent, Enrico. Il est, sa famille est en Australie, lui il est en Malaisie. Mais en tout cas, il avait 8 ans. Et on était à Launay à l'époque. Et parfois, quand il faisait beau, on allait à pied de Launay jusqu'à l'Oasis pour aller au culte. Et lui, il recevait l'argent de poche. Les poches n'étaient pas très grandes, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais il avait pris, lui, l'habitude, l'idée de la dîme appartient à Dieu. Alors, si lui, il touchait 10 francs d'argent de poche, il y avait 1 franc qui était pour le Seigneur et le reste, c'était pour son programme d'activité. Et sur le chemin entre notre maison à Launay et l'Oasis à Morges, la route de Morges, là, il y avait une maison avec un petit magasin, une petite boulangerie. Je pense que c'était Madame Bourquin, peu importe. Il y a longtemps de ça. Et elle faisait les meilleurs salés. Vous connaissez les salés, c'est très sucré. Hein? Mais les meilleurs salés du monde. Et Enrico était convaincu de ça. Il aimait les salés. Et elle faisait des petits salés ronds comme ça pour 50 centimes. Ah! Et nous, on était ensemble sur la route, là, le dimanche matin. Et Enrico avait 2 pièces de 50 centimes dans sa main. Et il jouait avec les 2 pièces comme ça. Mais maintenant, je ne connais pas le mot en français, le drain. Caniveau, c'est ça? Ouais. À côté de la route, là, il jouait. Et une des pièces de 50 centimes est tombé dans le caniveau, perdu. Et lui, il a regardé sa main et dit, « Papa, papa, j'ai perdu le 50 centimes du Seigneur. » Il y avait l'autre 50 centimes, c'était pour le salé. Moi, je l'ai regardé comme ça et j'ai dit, Enrico, réfléchis. regarde et réfléchis. Il a regardé, il a réfléchi et il a dit, tant pis pour le salé, je t'aime Seigneur. Et, pardon, ça, c'était, il a 52 ans cette année, elle avait 8 ans à l'époque. Mais pour moi, c'était le témoignage le plus profond que j'ai jamais entendu de la part d'un gamin de 8 ans. Ok, je ne suis pas neutre, c'est mon fils. Mais tant pis pour le salé. À propos, il a eu son salé. J'en ai acheté un gros que j'ai amené à la maison et on a tous fêté ensemble. Mais au retour du culte, en allant à l'église, il a été là. Il ne s'est pas arrêté pour acheter le salé et il a donné le 50 centimes comme il avait prévu pour l'œuvre du Seigneur. Le Christ ressuscité, confronté avec l'apôtre Pierre qui avait tourné son dos à lui et avait dit « je ne le connais pas », après la pêche miraculeuse de 153 poissons, vous pouvez le lire en Jean 21, il se tourne vers Jésus, vers Pierre et dit « est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre dit « oui, tu sais Seigneur que je t'aime ». Et Jésus dit, mais est-ce que tu m'aimes plus que ta fonction comme pêcheur, ton rôle comme un des apôtres, ta famille, ta situation, est-ce que tu m'aimes plus que? Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez retenir de tous ces longs partages que j'ai mélangé avec vous, mais j'aimerais terminer avec cette question. Ce n'est pas moi qui pose la question. C'est Jésus. Il dit, j'ai donné ma vie pour toi. C'était une question de sacrifice, pas une offrande. C'était ma vie. Tu me connais. Tu es mort à toi-même et tu es ressuscité en moi, le Christ ressuscité. Tu es vivant sur cette terre et pour l'éternité. Tu es vivant. Est-ce que tu m'aimes plus que? Plus que quoi? Ose faire une liste des choses que tu aimes beaucoup. Sois honnête avec toi-même et réponds avec ton cœur à la question que Jésus te pose. Est-ce que tu m'aimes plus que ça, 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 ça? Est-ce que tu es prêt à offrir ta vie parce que tu l'as en moi pour l'éternité? Et ça touche tous les aspects du travail, des relations, des rêves et toutes les choses que Dieu veut et peut réaliser en moi et à travers moi, à condition que ce soit lui qui est Seigneur. La dîme et les offrandes. Une offrande ou un sacrifice de vie. À toi de choisir. Choisis les deux. Amen.